Nous reprenons, si vous voulez bien. Et nous reprenons avec Éric Marty, que vous avez déjà entendu l'an dernier, puisqu'il était venu avec Claude Lanzmann à la dernière séance de notre séminaire de l'an dernier pour avoir un dialogue avec Claude Lanzmann sur Shoah. Il revient aujourd'hui pour nous parler de Roland Barthes. Que dire de lui pour le présenter ? Je le connais depuis très longtemps. Nous nous connaissons depuis 35 ans, j'imagine. Ce qui commence à compter. Et nous nous sommes connus, en effet, autour de Roland Barthes, dans la seconde moitié des années 1970. Éric Marty a publié beaucoup de livres importants. Ses travaux ont porté longtemps sur Gide, un très beau livre sur l'écriture, premier livre, l'écriture du jour sur le journal de Gide. Et au fond, il aurait pu nous parler de Gide aujourd'hui, il faudra le faire revenir pour parler de Gide une autre fois, et qui est évidemment dans l'écriture de vie qui s'imposerait lui aussi. Il est l'éditeur de la seconde partie du journal de Gide dans la nouvelle édition de la Pléiade qui a été donnée il y a quelques années. Mais après avoir travaillé sur Gide, il a travaillé sur bien d'autres auteurs et sujets importants. Il y a un livre sur Althusser, et tu aurais pu venir nous parler d'Althusser aussi dans cette écriture. De la vie, de cette écriture autobiographique. Il a écrit sur Genet, un ouvrage important chez Verdier il y a quelques années. Et puis, bien sûr, il a mené beaucoup de travaux sur Barthes et autour de Barthes, et il est l'éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes aux éditions du Seuil. Et il y a eu plusieurs éditions déjà, et régulièrement il y a de nouveaux inédits qui sont maintenant publiés sous sa direction, les séminaires, notamment le séminaire qui a préparé l'autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes qui vient d'être publié et que je vous recommande. Aujourd'hui, c'est donc de Roland Barthes qu'il nous parlera et du journal de deuil qui a été publié l'an passé sous le titre « La littérature et le droit à la mort ».
Merci Antoine pour cette introduction et cette invitation aussi. Aux trois questions que se pose le sujet moderne inventé par Kant, que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Que puis-je savoir? On pourrait en ajouter une quatrième qui aurait été la première pour l'intellectuel du XXe siècle. Qu'ai-je le droit ? Que m'est-il possible d'écrire ? Le grand axiome de la modernité a été qu'il n'est pas possible de tout dire, ou plutôt qu'il n'est possible de dire le nouveau, l'extrême, qu'à la condition de renoncer au tout, de renoncer à la totalité, qu'à la condition de détruire cette totalité. Axiome ascétique, qui est la condition de son futur classicisme d'ailleurs, et qui, au plus fort de son histoire, a pu apparaître comme un terrorisme. Cette terreur, d'ailleurs, à laquelle Barthes a pu participer à certains moments de son itinéraire, et même lorsqu'au milieu des années 70, Barthes infléchit son périple en profondeur, par la notion de plaisir, par l'écriture à la première personne, par l'usage du romanesque, il n'est anti-moderne, contre-moderne ou post-moderne, que dans un profond accord avec l'axiome, auquel il donne simplement un sens plus aigu, à l'écart des étouffoirs idéologiques qui, eux, contribuent à l'atrophier. La conquête d'objets nouveaux que Barthes construit donc à partir des années 70, objet jusque-là mis à l'écart par la modernité, s'accompagne en effet d'une écriture de plus en plus profondément fragmentaire. Et le fragment, c'est précisément l'expression à la lettre de l'impossibilité de tout dire, c'est la restriction par essence. Et dans le livre du deuil de la mère, la chambre claire, c'est juste que dans l'absence, dans le livre, de la photographie décisive, édite du jardin d'hiver, où la mère figure, que l'axiome moderne s'impose, substituant donc au tout de l'image, le texte, sa simple description. Mais c'est aussi, dans son appellation même, maintes fois répétée dans le livre, la photographie du jardin d'hiver, que Barthes éclipse également le tout de la personne qui y figure, la mère-enfant, au profit du lieu où elle figure, le jardin d'hiver, et cela dans ce qu'on appelle en rhétorique une métonymie, violente métonymie, figure favorite des modernes, empruntée à Mallarmé et à Flaubert, et aimée par eux parce que justement la métonymie est ce qui éloigne la mimésis, ce qui éloigne la représentation, ce qui éloigne l'image, ce qui éloigne le tout, dérobant tout contenu pour ne laisser plus place qu'à ce vide qui fait forme et qui se constitue alors en signe. De tous les modernes, Barthes aurait été le seul à avoir vérifié de manière radicale la violence de ce formalisme, qui était peut-être au fond un pharisianisme, puisqu'il préférait aux fausses consolations de l'esprit la rude loi de la lettre. Le seul à en payer le prix, le seul à mettre l'axiome moderne à l'épreuve d'un événement qui allait l'éprouver de manière conséquente, le deuil, la mort de sa mère. La forme coûte cher, disait Barthes citant Valéry. Oui, elle coûte d'autant plus cher qu'elle s'éprouve à un événement littéralement anéantissant. C'est ce geste qu'il inaugure le 26 octobre 1977, au lendemain même de la mort de sa mère, se livrant alors à une étrange entreprise qu'il nomme lui-même journal de deuil. Un feuillet sur lequel il inscrit la date et ses quelques mots interrogatifs, première nuit de noces, mais première nuit de deuil, geste qui laisse la plus grande part au blanc du papier, deux lignes simplement, avant de prendre un autre feuillet le lendemain et d'inscrire à nouveau une phrase. Donc reconduisant le principe du « ne pas tout dire », et cela, de manière paradoxale, en choisissant un genre, le journal, qui, à l'inverse, appelle au tout dire, appelle à dire le tout de la vie. Le journal, comme genre littéraire, aurait été pour Barthes une grande question et peut-être un vrai problème, comme finalement la tentation à laquelle il faut résister. Problème à la fois intellectuel, mais touchant aussi bien sa pratique. Problème laissé dans un profond suspens, dans un texte tardif, écrit précisément au moment même où il clôt son journal de deuil à l'automne 1979 et au titre significatif « Délibération ». Et texte qui commençait par cette phrase très retorse. « Je n'ai jamais tenu de journal, ou plutôt, je n'ai jamais su si je devais en écrire un. » Et Barthes ouvre à ce moment-là une critique du journal comme forme passée, comme forme marquée par l'égotisme, et il conclut que pour être sauvé, le journal nécessite une pratique excessive. « Je puis sauver le journal, écrit-il, à la seule condition de le travailler à mort, jusqu'au bout de l'extrême fatigue, comme un texte, avec un T majuscule, comme un texte à peu près impossible, travail au terme duquel il est bien possible que le journal, ainsi tenu, ne ressemble plus du tout à un journal. » Le mot « texte » avec le T majuscule signale bien, avec une sorte d'insistance, l'inscription de ce projet dans le champ moderne, mais un champ dévasté, et pour un texte cerné par l'impossible et marqué par l'improbable. Écrire ce type de journal aura donc, à ce moment-là, deux expériences concrètes qui sont toutes les deux posthumes. La première, très brève, intitulée « Soirée de Paris », publiée par François Val en 87, après la mort de Barthes, dans un court volume qu'il a intitulé « Incident ». Et la seconde expression du journal impossible auquel Barthes pense à ce moment-là, c'est donc cet autre ensemble, journal de deuil, bien plus important que le premier, puisqu'il constituait de 330 feuillets, datés donc d'abord du 26 octobre 1977 jusqu'au 15 septembre 1979, s'achevant donc à l'automne de cette année-là. Ces deux ensembles devaient prendre place dans le vaste projet auquel Barthes réfléchit à ce moment-là, dont il a laissé 8 esquisses du plan, qu'il appelait Vita Nova. Le premier, Soirée de Paris, apparaît dans la seconde esquisse, Et puis, Journal de deuil apparaît donc dans la huitième et dernière esquisse. Tout comme Soirée de Paris, Journal de deuil, loin de démentir la déclaration liminaire et retorse de délibération, je n'ai jamais tenu de journal, la confirme, car Barthes, en effet, ne tient pas de journal. S'y tenir un journal désigne alors l'expérience que lui-même critique et condamne, ou celle que Blanchot a stigmatisée de manière si radicale dans L'entretien infini, parce que, selon lui, le journal se soumet au temps commun, au temps du monde, à cette régularité heureuse qu'on s'engage à ne pas menacer. Barthes ne tient pas de journal au sens quasi matériel du terme, au sens où les 330 feuillets du journal de deuil sont loin des cahiers, des registres, des carnets, des agendas, de toutes les formes reliées du journal, et ce journal de deuil vise au contraire une sorte de déclassement, de mobilité, de dispersion, toujours possible, et de fragmentation. La seconde caractéristique de ces journaux est donc d'être des textes posthumes. Mais qu'est-ce qu'un texte posthume ? Qu'est-ce qu'un journal posthume ? On l'a vu, Barthes lui-même avait assigné à ces deux textes une place précise dans le livre à venir, Vita Nova. On pourrait donc dire que ces journaux ne sont posthumes que par la contingence de la mort, de l'accident mortel qui l'a frappé en février 80 et l'a empêché de mener à bien son projet. Mais je ne crois pas personnellement à la pluralité des mondes. Je ne crois pas à un monde sans l'accident mortel. Je ne crois pas à un monde où Barthes aurait vécu et aurait écrit Vita Nova. Et cette inscription des deux livres, des deux journaux dans le livre à venir ne suspend nullement ce qu'ils sont et qui est inaliénable, appartenant donc de manière irréversible à la sphère posthume, à la sphère de la mort. La seule chose que nous indiquent ces deux notations de Vita Nova, c'est qu'il n'y a eu aucune fraude à les publier, et même au contraire une forme de fidélité à le faire. Alors, qu'est-ce qu'un texte posthume ? Maurice Blanchot insiste longuement, à propos de l'œuvre littéraire et de l'espace de la mort, sur l'extrême duplicité de l'art, en tant que l'art aspire à maîtriser la mort, et que cette maîtrise est à la fois signe de sa duplicité et de son erreur. Il l'énonce de manière saisissante dans cette formule. C'est, dit-il, la duplicité du songe heureux qui nous invite à mourir tristement en Eurydice afin de survivre glorieusement en Orphée. En chantant Eurydice, en chantant la mort, en la maîtrisant par ce chant, le poète, selon Blanchot, loin d'accueillir la mort, feint de mourir avec Eurydice et veut survivre en Orphée, donc dans un double déni de la mort, puisque ce faisant, il aspire en plus à l'immortalité. Et c'est là que l'erreur s'ajoute, selon lui, à la duplicité. C'est peut-être pour cela que Barthes, comme instinctivement, dès les premiers jours du deuil, récuse l'immortalité en ce qu'elle est l'impensée de celui qui est vivant. Il récuse l'immortalité comme ce qui empêche d'accéder à la mortalité du mort, de celle qui est morte. Et lorsqu'il prononce le mot du deuil, qui est le « jamais plus je ne la verrai, jamais plus elle ne sera là », une autre voix, une voix intérieure, dit toute la mystification qu'il y a dans cette déploration du « jamais plus ». Mot d'immortel, écrit-il, ce « jamais plus » n'est pas éternel puisque vous mourrez un jour. Cependant, comment ne pas reconnaître dans la réflexion de Blanchot, de l'art comme art duplice, la chambre claire, l'œuvre duplice par excellence, l'œuvre de l'erreur, où Barthes rejoint alors la figure de l'artiste, et dont le nom qu'il illustre dans les pages de Blanchot est celui prestigieux de Rainer Maria Rilke. Dans la chambre claire, Barthes chante la mère, où l'enfant qui ressuscite en elle et qu'il ramène depuis le royaume d'Hadès, grâce à une photographie, celle du jardin d'hiver, est bien l'image même d'Eurydice, une Eurydice donc qui le fait revivre lui en Orphée. Blanchot, dans une grande part de son livre, déploie autour de la mort et de la littérature une série d'impasses où les plus grands se perdent. Kafka qui ne cesse de mourir de son vivant, Proust qui veut rendre la mort moins amère, Hegel, Nietzsche, Heidegger lui-même qui répètent le même piétinement devant le mourir. Le secret de ces échecs, de ces impasses pour Blanchot, c'est qu'au fond, il n'y a de droit à la mort pour l'écriture que dans la terreur et le meurtre, comme son texte qui porte ce titre, La littérature et le droit à la mort, l'avait dit jadis à propos de Sade. Ce qui confère à l'écrivain le droit à la mort, c'est la terreur révolutionnaire, le meurtre sadien, moment d'extase inouïe où la liberté est tout entière liberté, s'affirmant dans l'émeute et l'échafaud où l'existence privée et individuelle est surmontée, où la vie conjointe en elle, intensément, liberté et mort, à savoir la possibilité du tout à partir du rien, possibilité qui n'est pas seulement celle de l'insurrection pour Blanchot, mais celle de l'écriture. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, hors de ce temps de l'émeute et de l'insurrection, n'y a-t-il pas pour la littérature un droit à la mort ? Et telle est la question que nous pose finalement le journal de deuil de Roland Barthes. Et si la réponse est positive, alors il faut penser à une autre terreur, celle qui, loin de l'émeute, loin de l'insurrection, ne mène pas du rien au tout, comme le disait Blanchot, mais nous conduit du tout au rien, du tout de la mort, du tout de la mer, au rien de l'écriture, à son silence. Dès le 9 novembre, 15 jours seulement après la mort de sa mère, Barthes écrit « De moins en moins à écrire, à dire, sinon cela. Mais je ne puis le dire à personne. De moins en moins à écrire. Ce journal, qui en effet n'est pas du tout un journal, n'est peut-être en fait qu'une, que l'odyssée d'une écriture vouée à s'éteindre, à l'extinction, au silence, parce qu'elle n'a rien à écrire, sinon cela, mais cela, elle ne peut le dire à personne. » Cette autre terreur que la terreur insurrectionnelle de Blanchot serait alors la terreur que vient habiter la pitié. De moins en moins à écrire, sinon cela, le cela dont Barthes parle, et qui a donc assèche la possibilité même d'écrire et le mène à un rien dévasté, ce cela, ce sont les dernières paroles de la mère, les mots qu'elle a dit, écrit Barthes, dans le souffle de l'agonie, au moment de mourir. Ces mots sont rapportés par Barthes dans une parenthèse où Barthes n'écrit son prénom que sous la seule initiale du R, mais je vais bien sûr, en le lisant, dire la totalité. C'est donc le dialogue entre la mère qui meurt et le fils. La mère, mon Roland. Réponse du fils, je suis là. La mère, tu es mal assis. Si cela, Barthes ne peut le dire aux vivants, à ses contemporains, c'est parce que ces mots ne s'adressent qu'à lui seul. Ils l'ont choisi comme seul destinataire. Mais il y a plus, il y a que ces paroles de la mère qui va mourir sont des paroles de pitié à son égard, des paroles de pitié pour lui. Mon Roland, est le « tu es mal assis » qui contredit la réponse de Barthes, réponse de la présence essentielle, je suis là, ou je suis là du vivant, celle qui va mourir répond qu'elle a pitié de lui. Voilà le cela qui constitue le de moins en moins à écrire, qui assèche l'écriture, ce cela qui revient comme une obsession tout au long du journal. On dira alors que le droit à la mort tient dans ce cela qui conduit du tout au rien, puisque l'écrivain n'a plus pour lui qu'une écriture destinée au silence, destinée à sa propre disparition. Serait posthume, et ouvrant donc le droit à la mort, toute parole par laquelle un sujet parlant est brutalement exclu de la masse parlante, de la communauté en tant qu'elle parle, toute parole qui a interrompu la chaîne signifiante dans laquelle nous sommes tous inscrits. La terreur comme pitié n'est peut-être pas alors si différente de cela que la terreur comme meurtre. Elle n'en est peut-être que l'envers. Cette pitié, en effet, n'est pas la pitié cathartique, ce n'est pas celle de Racine ou d'Aristote, ce n'est pas la pitié pour les autres. Pour le malheur des autres, c'est la pitié qui s'adresse à soi et dont le sujet est l'objet et la victime. Cette pitié suppose donc sans doute, au fond d'elle-même, comme l'écrit Lévinas, que toute mort est un meurtre. Mais le meurtre, alors, au lieu d'être, comme dans l'émeute ou dans les génocides sadiens, accès à l'impersonnel, comme Blanchot s'en réjouit, est précisément accès à un ordre interpersonnel, un ordre à l'échelle des rapports humains, dans le dialogue entre la mère qui va mourir et le fils qui l'assure de sa présence, je suis là, et dont ce dialogue est comme la suprême violence. Suprême violence par où le vivant est assigné à une responsabilité infinie, et d'autant plus immense que le dialogue auquel il s'est prêté fait de lui quelqu'un d'unique, auquel personne ne peut se substituer, unique, donc irremplaçable et seul, sans personne à qui dire cela. alors plus il acceptera d'assumer cette solitude et moins il aura de droits. Plus il sera juste, moins il pourra écrire. Plus il se fera l'interlocuteur du mort, plus il sera silencieux. Tel est le prix du droit à la mort. Ce de moins en moins à écrire est pourtant écriture. On pourrait même dire que ce de moins en moins à écrire est peut-être l'écriture même. En ce sens, Barthes est proche d'un autre raréfacteur de mots, Mallarmé. Et cela explique sans doute la proximité fascinante de son journal de deuil avec l'expérience que Mallarmé fit également lors d'un deuil essentiel. Après la mort de son fils Anatole, le 6 octobre 1879, un peu moins d'un siècle donc avant la mort de la mère de Barthes, Mallarmé, bouleversé, commence à rédiger sur des feuillets, presque du même format que ceux que Barthes a utilisés, une sorte de journal de deuil, texte publié bien après sa mort sous le titre « Pour un tombeau d'Anatole » par Jean-Pierre Richard. Fragments, phrases, vers, petits paragraphes, en tout 202 feuillets, contre 330 pour Barthes. Et les objets sont vraiment très très proches. Barthes connaissait d'autant mieux ce texte que son ami Boukhoïechliev, qui était aussi son professeur de piano et un immense compositeur, le mit en musique sous le titre « Traîne » en 1974 et qui demanda à Barthes d'en être l'un des deux récitants de cette œuvre musicale. D'ailleurs, Barthes cite un passage de ce Mallarmé posthume dans « Fragments des discours amoureux ». Magnifique parole. « Mère pleure, moi je pense ». Partage du deuil donc entre l'homme et la femme face à l'enfant mort, qu'on trouve dans d'autres phrases de ce magnifique texte de Mallarmé, « Mère a saigné et pleuré, Père sacrifie et divinise ». L'autre question que pose le journal de deuil, auquel j'ai le droit d'écrire du moderne, touche à l'objet même du deuil, la mère. Car la mère est évidemment le grand objet impossible de la littérature et plus encore du sujet moderne. La mère est l'objet antimoderne par excellence depuis longtemps, depuis Baudelaire, depuis Rimbaud, sauf à être l'objet d'une transgression, comme on peut le lire par exemple dans le très beau passage de Genet, du journal du voleur, où Genet, de la cellule où il est emprisonné, lors même qu'on l'a débarrassé du tube de vaseline qui le constitue comme déchet aux yeux du policier, hallucine et totémise dans le visage et le corps d'une vieille femme, mendiante et voleuse, sa propre mère réincarnée. Ou comment ne pas penser à cette autre transgression, celle de Bataille, dans « Ma mère », autre livre posthume, mais une fiction qu'il publie, qui sera publiée après la mort de Bataille. Or, Roland Barthes, grand lecteur de Sade, grand moderne, s'écarte précisément de ses contemporains. Il refuse le renversement pervers à l'égard de la mère comme accès moderne à sa sainteté, Baudelaire, Genet, Bataille, etc. Barthes s'éloigne de toute médiation. Il assume la relation face à face avec la mère qui renvoie violemment le thème pervers, le thème sexuel, à la stéréotypie du discours du monde, du discours du sens commun. C'est dès le premier jour du deuil, le 27 octobre, qu'il écrit ceci. C'est un dialogue. « Vous n'avez pas connu le corps de la femme. J'ai connu le corps de ma mère, malade, puis mourante. » Y a-t-il plus lumineuse façon de dissoudre ce qui, de Genet à Bataille, pour autoriser l'accès au corps maternel, se propose de le faire sous la forme de sa défiguration obscène et de son travestissement. Cette pleine lumière du dialogue que Barthes constitue est en un sens plus provocatrice que le sont les mises en scène transgressives et en ce qu'elle pose comme point de départ le discours de la société, celui de la faute et du rapport sexuel. Vous n'avez pas connu le corps de la femme. Et si elle est plus provocatrice, c'est qu'au fond, à l'inverse de la transgression, elle n'est pas complice de la loi sociale dont elle s'écarte. Elle est sans connivence, sans complicité avec elle. Le régime d'écriture par rapport à la mère duquel Barthes s'approche le plus, peut-être alors, serait celui de saint Augustin, du livre 9 des Confessions, là où il relate la mort de sa mère, Monique. Il y a par exemple un très beau passage où Augustin, de manière fascinante, inclut le « telle était ma mère »« qualis illa erat ». Il inclut donc dans ce « qualis illa erat » la corruption de l'image maternelle, de son image, mais qu'il déjoue de manière extraordinaire. C'est le récit de la faute de la mère enfant qu'une vieille servante a un jour confiée à Augustin. Celle-ci, enfant, était chargée dans sa famille d'aller puiser le vin à la cuve pour la table familiale et l'en buvait au passage. Avant de verser le vin dans le flacon, elle en buvait un peu du bout des lèvres. Primoribus, labris, sorbebat, exiguum. Tel est le premier souvenir qu'Augustin a au moment où il apprend la mort de sa mère. C'est l'infime culpabilité de la mère, l'infime faute, vue tout d'un coup dans la mère enfant, dans l'enfance de la mère, et qui, par son contenu extrêmement ténu, minuscule, fait s'éloigner et s'enfuir toute autre image, comme une sorte d'antidote, d'écran ou de vaccin à l'imaginaire du fils. Le journal de deuil n'évite nullement cette pression de l'imaginaire qui, en termes modernes, s'appelle le fantasme. Fatalité stéréotypée appartenant au monde du poncif, et cela, y compris dans le rêve. Je cite Roland Barthes, « Encore rêver de mame, elle me dit, ô cruauté, que je ne l'aimais pas bien. Mais cela me laissait calme, tant je savais que c'était faux. » Ce qui est beau alors, et peut-être augustinien, c'est que le rêveur, le dormeur, possède en lui assez de force, assez de goût pour la vérité, pour qu'il ne lui arrive pas de choses fausses. Et que le dormeur, dans son sommeil même, dans une vigilance qui est alors celle de l'âme, ne soit pas ébranlé par le fantasme, à savoir celle de la mauvaise mère et du reproche. Mais cela me laissait calme, tant je savais que c'était faux. Ce qui est également troublant chez Augustin, qu'il rapproche de Barthes et de nous-mêmes, c'est la présence du thème moderne de la moquerie à l'égard de la mère, dont la mère est le support archétypal. Moquerie dont, par exemple, les pleurs qu'on verse pour sa mort, sont l'objet. Ainsi, dans les quelques lignes qui précèdent la prière pour Monique de Saint-Augustin, il écrit à son lecteur que celui-là ne se moque pas, non irideat, qu'il ne raille pas, qu'il ne plaisante pas, mais plutôt, si sa charité est vive, qu'il pleure lui-même, fleat ipse. Que la mère éternelle soit l'objet de la moquerie, et que cette moquerie soit propice aux grimaces du rire, de la transgression, Barthes en a conscience. Il ne l'esquive pas, mais il ne le dit pas non plus. Il dit tout autre chose. Je cite, « Cette nuit, pour la première fois rêver d'elle, elle était allongée, mais non point malade, dans sa chemise rose du nipri, point de suspension. » La mention triviale du rose de la chemise de nuit et de ce qu'il s'agit d'une chemise bon marché, une nipri, pose, comme on pose une pierre, le corps de la mère dans sa trivialité de vieille femme et l'humilité de ce corps qui est dur jusqu'à une forme de neutre où se glisse l'obscénité de la vieillesse, sa pauvreté essentielle, sa maigreur pitoyable, corps comme du vent dans une chemise de nuit, son léger ridicule. Mais l'exposition au monde du corps maternel échappe à la transgression. Cette exposition échappe à la transgression par le caractère absolument littéral de la notation, par sa ténuité, encore une fois, par le parti pris radical de la prose qui arrête la lecture et qui arrête l'interprétation. La figure de la petite fille, centrale dans la chambre claire, naît dans le journal de deuil quelques mois après la mort de la mère, dans une note du 13 juin 1978. Ce matin, à grand-peine, reprenant les photos, bouleversée par une ou même petite fille, douce, discrète, à côté de Philippe Binger, qui est son frère, Jardin d'hiver de Chenevière, 1898. Cette découverte est décisive, elle ouvre à une nouvelle séquence du deuil, ce qu'il appelle le lendemain le second deuil, puis encore un jour après le vrai deuil. En réalité, le second deuil ou le vrai deuil déclenché par l'épisode de la photographie peut être considéré aussi comme la fin du deuil, comme la fin du journal de deuil qui s'interrompt le 21 juin, qui reprend un peu après, qui de nouveau va s'interrompre. Fin du deuil, car la photo se constitue en forclusion du deuil et aussi en forclusion du « de moins en moins à écrire », tant il est évident que cette photographie marque la transmutation, le renversement du jour d'agonie. Celle qui disait « mon Roland » devient par la photographie la petite fille muette de la photo, elle devient la fille du fils. Barthes, alors, grâce à cette découverte, tout en continuant à écrire son journal de deuil, entre dans le projet, dans le travail, dans le temps de l'écriture, et progressivement, le journal ne devient plus que le lieu où se marque la hâte d'arriver au moment où, débarrassé des cours du Collège de France, il pourra se mettre au travail à l'écriture. La photographie est médiation, alors, elle est le contraire du fantasme, pourrait-on dire. À l'image mentale du fantasme, objet ductile se pliant à toutes les manipulations de l'imaginaire, elle oppose l'image fixe, perçue, à propos de laquelle, on le sait, Barthes va construire une sorte de phénoménologie de l'image qui la constitue, cette photographie, comme stricte émanation du réel. On connaît sa formule, le « ça a été » qui désigne ce qu'est finalement l'être photographique. En fondant cette phénoménologie sur une sorte d'alchimie mystique, où les halogénures d'argent de la pellicule photographique, par leur sensibilité à la lumière, sont ce qui immortalise la mer, Barthes, comme on l'a dit avec Blanchot, s'extrait avec une nouvelle et éternellement jeune Eurydice de l'espace de la mort pour rentrer dans l'espace de l'art, dans l'espace que Blanchot donc définit comme duplice. Qu'est-ce que la petite fille ? Barthes s'était interrogé en vain à propos de Proust sur les raisons qui avaient poussé Proust à substituer dans son œuvre la figure de la grand-mère à celle de la mère. Or, dans le journal de deuil, Barthes opère un mouvement tout à fait symétrique en substituant finalement à la figure de la mère celle d'une petite fille. Dans ce mouvement, on pourrait peut-être trouver ce que Manuel Levinas appelle d'un mot très profond qui est l'illéité. Dans certaines prières, écrit Levinas, le « il » se substitue au « tu », comme si au cœur de l'approche du toi survenait sa transcendance en « il ». Eh bien, la petite fille est bien ce « elle », cette troisième personne, cette illéité à laquelle le journal de deuil tente à accéder pour pouvoir se détruire et pour pouvoir donc passer à l'écriture, à l'art, au monde de l'art. Et il accède à cette illéité précisément en abandonnant la langue française pour le latin, d'où vient d'ailleurs le concept levinasien d'illéité, moment très beau, très intense, où il trace ces quelques mots sur un feuillet, « Memento illam vixisse ».« Illam », celle-là, cette « illa » de l'illéité, présent également, on s'en rappelle, chez Augustin, « Qualis illa erat », »,« telle était ma mère, telle elle était ».« Memento illam vixisse », »,« Souviens-toi qu'elle, que celle-là, illam a vécu ». L'illéité même, où le tu de la pitié, où le tu du Mont-Roland disparaît pour construire précisément une image à la troisième personne, celle d'une mère devenue enfant, devenue petite fille. Le temps de l'œuvre n'est pas le temps du journal. C'est pourquoi Barthes, finalement, détruit son journal pour passer à l'œuvre qui sera justement un autre temps. L'œuvre, elle, abolit le temps. L'écriture ne cesse d'effacer le temps qui pourtant le nourrit. Ainsi, par exemple, dans La Chambre claire, à un moment, Barthes se remémore les premières intuitions à l'origine du livre, et il écrit alors « C'est loin déjà ». L'écrivain est oublieux. Mais celui qui tient le journal, qui écrit le journal de deuil, ne peut pas oublier justement le temps et l'originaire. Et le langage, comme frappé d'inauthenticité, ne l'aide pas à avancer, à effacer les traces du temps, à vaincre le temps. Le langage ne veut plus rien dire. Je cite, « Dans la phrase, elle ne souffre plus. À quoi ? À qui renvoie-elle ? Que veut dire ce présent ?» Et plus tard, Barthes écrit, « Désespoir, le mot est trop théâtral, il fait partie du langage. Une pierre. » Mais la pierre, qui dit mieux la mort que le mot désespoir, n'est-ce pas, plus encore que ce mot, le langage ? Le langage réduit à sa fonction extrêmement primitive, celle du signe, de l'entaille, d'une trace muette, signe qui n'érange rien, qui ne crée aucune intrigue, aucun chantage existentiel, aucun bavardage, aucune dialectique. La pierre prend la place du mot, et alors la parole ne peut plus être que monologue. Barthes écrit alors dans son journal de deuil « Je souffre de la mort de Mame ». Et entre parenthèses, « cheminement » pour arriver à la lettre. C'est nécessaire pour Barthes d'arriver à la lettre, c'est-à-dire d'arriver à écrire littéralement quelque chose, c'est parce qu'il est face à l'absolu, l'absolu de l'oubli, et face à l'imminence de l'oubli absolu, du plus aucune trace, et cela nulle part en personne. Or, qu'est-ce que penser lettre pour lettre, je cite Barthes, lettre pour lettre, le « à jamais ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, penser littéralement la mort de la mère, c'est forcément penser simultanément et tout aussi littéralement sa propre mort à l'exclusion de toute autre pensée. D'une certaine manière, tant que je pense à la mort de l'autre comme sa mort, je suis encore dans le langage comme théâtre, dans le jeu du sujet et de l'objet, dans le calcul du jeu et du tu, dans le chantage de l'existence. Mais, je cite, « savoir que Mam est morte à jamais, complètement, c'est, je cite encore, penser lettre pour lettre, littéralement, que moi aussi je mourrai à jamais et complètement. » Ce savoir littéral-là est connaissance absolue de la mort, je cite, « le chagrin comme une pierre, à mon cou, au fond de moi. » On comprend alors que ce journal de deuil soit aussi l'espace d'une protestation contre sa propre culture, contre sa propre civilisation qui a abandonné et perdu l'univers de la lettre, l'univers de la littéralité, au profit de ce qui efface la lettre et qui donc efface et refoule la mort. Cette protestation de Barthes dans son journal a pour cible les amis, les connaissances qui ne cessent de délectiser, de vouloir transformer le chagrin en oubli. Elle a aussi pour cible certains discours, celui de la psychanalyse par exemple, qui, comme psychologie, est selon Barthes la défiguration même de la souffrance et des maux. Je cite, « Proust parle de chagrin, non de deuil. » Entre parenthèses, mot nouveau, psychanalytique, qui défigure. Ou encore, je cite, « ne pas dire deuil, c'est trop psychanalytique, je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. » Mais ce sont là des cibles de surface. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les connaissances qui ne savent que dire au chagrin de Barthes, ni la psychanalyse qui a plein de naïveté lexicale. Ce qui est en jeu, c'est la culture tout entière, la civilisation même dans son impuissance à être une réserve de signes et de symboles. Je cite, « Au deuil intériorisé, il n'y a guère de signes. Il n'y a guère de signes. C'est l'accomplissement de l'intériorité absolue. Toutes les sociétés sages, cependant, ont prescrit et codifié l'extériorisation du deuil, malaise de la nôtre en ce qu'elle nie le deuil. » Le journal de deuil, en ce sens, mais d'une toute autre manière que le degré zéro de l'écriture, mythologie ou SZ, est une méditation violente sur le signe et une critique de la civilisation contemporaine qui est justement une civilisation de l'oubli du signe. En substituant une pierre au mot, déjà trop théâtral de désespoir, Barthes, en ce sens, exhume de la terre le plus vieux des signes, le plus emblématique, la pierre qui est le signe même, qui est le signe originaire. La pierre est le signe même en ce que, justement, elle se dérobe au jeu du langage, au bavardage, aux intrigues, à la dialectique même qui est oubliée, puisque le langage, pour avancer, doit oublier ce qu'il vient de dire, il doit toujours oublier pour pouvoir conduire un discours. Pierre qui est le premier des signes, pierre qui est le premier des signes parce que, justement, elle nomme sans dénommer, pierre qui est le signe originaire, parce qu'elle nomme dans le silence absolu d'un degré zéro, d'une écriture totalement blanche, sans même les leurs être blancheurs. Cet idéal symbolisé par la pierre, comme abstraction, comme signe pur, comme signe primitif et pur, Barthes tente de saisir cet idéal dans plusieurs passages de son journal, comme le signe de l'absence. Je cite ce passage, « frappé par la nature abstraite de l'absence, et cependant c'est brûlant, déchirant. D'où je comprends mieux l'abstraction. Elle est l'absence et douleur. Elle est absence et douleur. Douleur de l'absence. Peut-être donc amour. La pierre, alors, peut être ce qui sauve le deuil de lui-même, qui le sauve de l'émotivité à laquelle Barthes craint parfois que son chagrin ne puisse se réduire. Je cite, « gêné et presque culpabilisé parce que je crois que mon deuil se réduit à une émotivité. » L'émotivité n'est nullement bannie par Barthes, bien au contraire, les larmes sont là, mais ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'en elle gisent silencieusement, dans l'attente de paraître, le moment où elle sera moins forte, le moment où elle va disparaître. C'est pourquoi l'imperturbable présence de la pierre est indispensable, comme signe, signe profond de la mort et de l'absence, totalement nécessaire. Je cite, « apprendre la terrible séparation de l'émotivité, elle s'apaise, et du deuil, du chagrin, il est là. C'est cet être-là, obstiné, qui réclame, pour ne pas être emporté par les aléas de l'émotion, un signe comme la pierre. C'est pourquoi Barthes, contre sa propre civilisation et la culture qu'il habite, a recours dans ce journal à un autre espace d'expression qu'on appellera l'Orient. Cet Orient, qui recouvre tant d'expressions du signe, aujourd'hui dérobées à notre mémoire, n'est pas l'Orient de l'Empire des signes, de ses idéogrammes, où se dessine un autre vide. C'est un autre Orient, beaucoup moins extrême-oriental, beaucoup plus proche de nous, qui nous touche de près, qui fut presque nôtre, sans quoi on ne l'aurait pas oublié, et qui revient sous de multiples formes dans le journal. Il y a d'abord l'Orient hébraïque du Christ, celui qui révèle Lazare. Je cite Barthes citant l'Évangile. « Notre ami Lazare repose, je vais aller le réveiller », entre parenthèses, le ressusciter. « Jésus frémit intérieurement, troublé, etc. » Chapitre 11, verset 35. « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura, les Juifs dirent alors comme ils l'aimaient. C'est l'Orient grec, où l'icône, comme la pierre, demeure, veillant sur l'absente. Je cite, « L'endroit, la chambre où elle était malade, où elle est morte et où j'habite maintenant, le mur contre lequel la tête de son lit s'appuyait, j'y ai mis une icône. Non, parfois. Et j'y mets toujours des fleurs sur une table, j'en viens à ne plus pouvoir voyager, pour que je puisse être là, pour que les fleurs ne soient jamais fanées. » C'est l'Orient russe, celui de Tolstoï, où la sainteté se dit souverainement, où la sainteté, pardon, dit souverainement le non-langage, comme non-préoccupation du paraître. Barthes fait référence à une nouvelle de Tolstoï qui s'appelle « Le père Serge » et de sa fin, quand il retrouve une petite fille, comme dans son enfance, devenue grand-mère, épisode de paix, le sens ou l'exemption du sens. Et enfin, après l'Orient hébraïque, grec, russe, c'est l'Orient arabe, celui du Maroc, où dès le premier jour, un signe survient. Je cite, « Je vis les hirondelles voler dans le soir d'été. Je me dis, en pensant avec déchirement à Mam, quelle barbarie de ne pas croire aux âmes, à l'immortalité des âmes. Quelle imbécile vérité que le matérialisme. » Moment profond d'éloignement à l'égard du présent et de la culture européenne, où quelque chose s'écrit dans le ciel, dans le soir d'été, par la fulgurance des hirondelles, et atteste d'un signe l'existence des âmes, leur immortalité, non pas l'immortalité de la duplicité de l'art, ce n'est pas à sa propre immortalité que Barthes pense, bien sûr, c'est une autre immortalité à laquelle il songe, et que le ciel d'Orient laisse voir dans le soir qui tombe. C'est dans l'Orient du Maroc que le signe se redouble. Je cite, « Et ce matin, son anniversaire, je lui offrais toujours une rose. J'en achète deux au petit marché de Mère Sultane que je mets sur la table. » Et puis, c'est l'espace vide de l'Orient marocain, de l'Orient arabe, qui s'offre parfois, espace vide où la lettre des signes se dessine, où la lettre des signes se dessine dans l'absence de toute parole, sans apparat, dans une forme de silence. Je cite, « Ce qu'il me faut, un dépaysement doux, l'absence de monde, de mon monde, sans la solitude. Même à El Jadida, où je retrouve des amis, je me sens moins bien. Mais ici, je n'ai que Moka, dont je comprends à grand-peine la conversation, bien qu'il me parle souvent. Sa femme, jolie et muette. Ses gosses, sauvages, les garçons de l'Oued et désirants. Angèle, qui m'apporte un énorme bouquet de lys et de laïole jaune. Les chiens, raffus d'ailleurs toute la nuit, etc. Il n'y a que les chiens qui font du bruit. Le prénom du jeune porteur de fleurs, Angèle, est celui du messager, de l'ange, qui ne parle pas et qui dispose simplement de simples signes, les glaïoles et le lys. Mais peut-être déjà est-ce trop de signes. D'où cette autre phrase de Barthes, « Déception des divers lieux et voyages, ne suis bien nulle part. » Très vite, le cri « Je veux rentrer. » Mais où ? Puisqu'elle n'est plus nulle part, qui était là où je pouvais rentrer. Je cherche ma place, sitio. Sitio, mot étrange, tout à la fois le site, le lieu, l'endroit, et puis évidemment la dernière parole du Christ, sitio, j'ai soif. Alors nous entrons vraiment dans le droit à la mort, où il n'y a plus à distinguer entre le proche et le lointain, la rareté et le plein, les larmes et la sécheresse du cœur, la mémoire et l'oubli. Le droit à la mort, c'est la mort elle-même, au fond, que le désir de vivre, que l'émotivité qui est encore ce désir, chasse sans cesse, attire et éloigne, et qui, dans ce mouvement même, mouvement donc de mort et d'éloignement de la mort, constitue l'écriture, fait naître l'acte même d'écrire et constitue les 303 feuillets du journal de deuil. Je m'arrête.